Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Daniel Weil. Alors Daniel, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Je rappelle que vous êtes directeur recherche, stratégie et développement durable chez Primonial REM. Alors Primonial REM, on ne le présente plus. Donc c'est notamment un des principaux acteurs de la gestion de SCPI sur le marché. Et également un acteur important dans le secteur de l'immobilier de santé. Alors précisément, dans votre actualité, il y a la publication d'une étude dédiée à ce secteur, l'immobilier de santé en Europe. Alors j'aimerais qu'on en parle, mais avant de parler de l'étude elle-même, il y a un chiffre assez frappant qu'a publié MSCI récemment sur les performances des différents secteurs immobiliers. Il se trouve que le secteur de l'immobilier de santé est l'un des rares à avoir affiché une performance globale en hausse en 2022, de l'ordre de 10% à peu près. Alors, comment vous expliquez cette résistance et est-elle durable?
Oui, ce qui est intéressant, c'est pas tant le chiffre lui-même que la hiérarchie des classes d'actifs entre elles, où on voit effectivement que l'immobilier de santé subit beaucoup moins de baisse de valeur d'expertise que d'autres secteurs. Pourquoi? Parce que premièrement, l'immobilier de santé part d'une prime de risque qui est déjà substantielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un actif de santé, un EHPAD prime, va se négocier entre 4 et 4,5%. L'OAT à 10 ans français, donc le taux 10 ans risque français de l'ordre de 3%, on a une prime de risque qui est substantielle.
Qui est encore positive.
Qui est encore positive et qui justifie encore qu'on aille sur cette classe d'actifs. Deuxièmement, évidemment, le moteur, je dirais, de la rentabilité locative de ces actifs-là, c'est d'abord la démographie. On sait qu'on est sur un marché où il y a un déséquilibre avec une offre beaucoup moins forte que la demande et que cette demande est croissante avec des mastodontes opérateurs pan-européens qui sont rentables. Donc ça, ce sont les deux facteurs qui expliquent qu'aujourd'hui, il y ait un caractère défensif de l'immobilier de santé par rapport à d'autres classes d'actifs immobilières.
Alors, si on vient sur l'étude justement, on parle d'immobilier de santé, on a souvent tendance à réduire ce secteur, je dirais, à sa dimension résidence médicalisée, autrement dit les EHPAD. En réalité, il est beaucoup plus diversifié que cela et beaucoup plus complexe. Alors, en fait, quelles sont aujourd'hui les grandes masses de l'immobilier de santé en Europe?
Alors, effectivement, c'est bien l'échelle européenne qu'il faut prendre pour répondre à cette question, parce que l'EHPAD est finalement un modèle assez français. Alors que dans d'autres pays, et notamment l'Allemagne, on a beaucoup d'actifs dits mixtes entre EHPAD faits pour les personnes fortement dépendantes, ce qu'on appelle les nursing homes en terminologie, et puis les résidences services seniors, qu'on appelle assisted living en français, et qui sont des lieux qui ont plus vocation à offrir un sentiment de communauté à des personnes un peu plus jeunes que celles qui sont en EHPAD en France. Donc, grosso modo, ce secteur, je dirais, du long séjour, hein, EHPAD et puis résidence service senior, est de l'ordre des trois quarts de l'investissement en immobilier de santé, qui représente à peu près 7 à 10 milliards d'euros par an en Europe, ce qui est une niche. Hein, c'est-à-dire c'est une niche qui a doublé de taille en 5 ans. Hein, on passait de 3-4 milliards d'euros par an à 7 à 10 milliards d'euros par an entre 2015 et aujourd'hui. Donc c'est une niche qui a doublé de taille, mais c'est une niche par rapport aux 180 à 200 milliards d'euros d'investissement en immobilier de bureau au niveau européen. Et puis le quart restant.
Mais justement, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, finalement, l'immobilier de santé médicalisé, enfin, type EHPAD, c'est quand même la majorité de l'immobilier de santé.
C'est la majorité de l'immobilier de santé, avec cette distinction à faire entre EHPAD et puis actifs plus résidents services seniors. Et puis le dernier cas, en fait, se ventile de façon à peu près équitable entre les cliniques, laboratoires, ce qu'on appelle les centres médicaux, aussi les hôpitaux psychiatriques, qui sont un peu une classe d'actifs en soi, ce qu'on appelle le réhab, hein, réhabilitation, clinique de réhabilitation. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, le socle, c'est effectivement le long séjour, avec le court séjour, hein, où on va faire des séjours pour 24 heures ou un peu plus. Ça, c'est finalement plus minoritaire, mais assez intéressant.
Est-ce qu'on a une idée des besoins futurs en termes d'hospitalisation, de résidence en Europe, en France ou en Europe?
Tout à fait. Alors, effectivement, il faut différencier hospitalisation, court séjour et puis long séjour. Sur l'hospitalisation, c'est plus difficile d'évaluer parce qu'il y a la question de l'optimisation de l'hébergement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une clinique, c'est un centre de service plutôt que d'hébergement. Hein, c'est-à-dire qu'on passe dans une clinique, on y passe peu de temps. Hein. Et l'idée, c'est qu'on y passe de moins en moins de temps, qu'il y ait une télémédecine qui se mette en place, etc. Pour le long séjour, là, pour le coup, c'est beaucoup plus précis. prévisible parce qu'on parle de gens qui vont habiter sur place. Et là, effectivement, nous, on a quantifié chez Primonial REM le besoin au niveau européen à 400 000 lits supplémentaires par rapport aux lits actuels. Donc, il y a à peu près 4 millions de lits d'EHPAD pour aller vite en Europe. Et on estime qu'il y a entre 400 et 500 000 lits supplémentaires nécessaires, sans compter la rénovation des lits existants, qui sera à peu près le même nombre, 400-500 000. Donc on voit bien que ce sont des chiffres qui ne peuvent pas, un peu à l'instar du logement, qui ne peuvent pas être atteints sans une participation beaucoup plus forte du privé, d'où la consolidation du secteur, la montée en puissance des opérateurs privés, etc. Et qui correspondent à un marché, mais surtout à un besoin. C'est ça le point fondamental, à mon avis.
Alors, on est d'accord. Donc, il y a besoin d'investissement énorme. Il y a un besoin à couvrir. Mais il y a la question de la performance quand on est investisseur, justement. Ou plus exactement de la rentabilité. Parce que le rendement du bailleur, vous êtes bailleur en immobilier de santé, elle dépend clairement de la capacité des exploitants locataires à payer les loyers demandés. Capacité qui dépend elle-même de la capacité des patients à payer les soins dispensés. Or, ces soins, ces prestations sont de plus en plus chères. Or, également, la capacité des individus et des régimes de protection sociale à les prendre en charge, elle a, elle aussi, ses limites. Donc la question, c'est qui va payer ?
Ah ben, évidemment. D'abord, il faut quand même signaler une chose, c'est que les opérateurs privés aujourd'hui sont globalement rentables, notamment les plus importants d'entre eux. Puisqu'il y a toute une problématique de mutualisation d'un certain nombre de coûts. On voit bien la facture énergétique qui flambe chez beaucoup d'opérateurs. Évidemment, des coûts de ressources humaines, puisqu'il faut rendre ces métiers plus attractifs, et donc évidemment le salaire en fait partie, et il faut augmenter le taux d'encadrement, le taux de médicalisation autour des patients, hein. Et donc tout ça, ça représente un coût important, et ça grève la rentabilité des opérateurs. Donc il faut partir d'un niveau de rentabilité qui soit déjà assez élevé pour que par la suite on puisse absorber. Hein, nous on refuse beaucoup les opérations qu'on refuse, c'est principalement pour des raisons de solvabilité future des opérateurs. Il faut qu'on puisse porter un loyer assez bas pour pouvoir augmenter tout en absorbant des coûts supplémentaires. Et puis, ça, c'est le volet opérateur. Et puis, il y a effectivement le coût porté par les usagers, hein, de ces actifs-là. Là-dessus, donc, d'abord, on investit évidemment sur des actifs privés, hein, donc c'est pas alors même s'il y a parfois des actifs mixtes avec des prix de chambre plafonnés, etc. Hein, là encore, c'est un peu comme dans le logement, il y a un secteur social intermédiaire et libre quelque part. Et ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que malheureusement, on parle d'actifs dont la durée de la personne dans cet actif est de l'ordre, pour un EHPAD en France, de l'ordre de 18 à 24 mois. D'accord ? On a parfois trop l'image de la maison de retraite où finalement une personne va passer 10, 15, 20 ans de sa vie. C'est pas ce dont il s'agit en fait quand il s'agit d'EHPAD. Il faut pas faire cette erreur-là.
Donc en réalité, le temps de financement est assez court.
Oui, et puis, et là encore, le taux d'occupation aujourd'hui dans les EHPAD est de l'ordre en France est de l'ordre de 94%. D'accord, donc il y a pas de problème, si vous voulez, de désaffection. Il y a pas de problème de taux d'occupation des lits en France. D'accord, ça c'est très clair. Et quand il y a des sujets, c'est moins parce qu'il y a peu de demandes que parce que il y a pas suffisamment de personnel pour encadrer. D'accord, donc l'insuffisance est plutôt du côté de l'offre que du côté de la demande.
D'accord. Alors, je voudrais qu'on dise un mot, justement, sur votre stratégie sur l'immobilier de santé, Primonial REM. On va pas évoquer le sujet du rachat en cours, éventuel rachat en cours d'ICAD Santé, mais grosso modo, quelles sont aujourd'hui les grandes lignes de votre stratégie d'investissement dans le secteur de la santé ?
Alors, nous, pour les raisons qu'on a évoquées au début de notre conversation, on estime que l'immobilier de santé, c'est aujourd'hui le meilleur pari défensif dans la conjoncture actuelle, qui est quand même une conjoncture très 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 particulière. Premièrement. Deuxièmement, on estime que la bonne façon d'investir en immobilier de santé, c'est de s'exposer de façon que les financiers appelleraient synthétique à l'immobilier de santé. C'est-à-dire que c'est déjà une niche, on va pas en plus faire des niches dans la niche. Hein, et là, on se différencie d'autres acteurs qui vont privilégier qui le life science, qui le cœur de ville, qui les cliniques Alzheimer. Nous, on estime au contraire qu'il faut d'abord Le principal risque en immobilier de santé, c'est le risque opérateur. Donc, il faut beaucoup d'opérateurs, beaucoup de lignes. Il faut des gros portefeuilles. Et il faut plusieurs pays, nécessairement, et plusieurs typologies d'immobilier. Et d'autre part, on estime qu'il est impératif de diversifier pour avoir justement la pleine mesure de la performance de l'immobilier de santé, qui est quand même de pouvoir délivrer un revenu régulier sur la durée de baux longs, qui sont de l'ordre de 12 ans en France, qui sont de l'ordre de 15 à 20 ans à l'étranger. Et ça suppose, si vous voulez, d'avoir une exposition vraiment synthétique avec des actifs, je dirais, peu cycliques, comme EHPAD, résidence, service senior, des actifs qui sont un peu plus corrélés à la croissance économique. Ça, c'est typiquement le court séjour, hein, les cliniques. On se soigne plus quand il y a plus de croissance, on se soigne moins quand il y a moins de croissance économique, hein. Et puis des actifs qu'on pourrait appeler ultra défensifs, comme les cliniques de réhabilitation psychiatrique. Donc en fait, dans l'immobilier de santé, il y a suffisamment de variété, mais il faut vraiment pouvoir délivrer une exposition européenne, globale, synthétique, à cette classe d'actifs.
Ok, donc une approche diversifiée du secteur. Il nous reste moins d'une minute. Je voudrais juste avoir votre avis sur un des sujets de l'année 2023 sur les CPI. On imagine, compte tenu de la baisse des valeurs de l'immobilier, que des prix de part des CPI pourront baisser en 2023. L'une l'a déjà annoncé. À votre avis, y aura-t-il des baisses en 2023? Il vous reste 30 secondes.
Alors, tout dépend de Madame Lagarde. Et effectivement, on sait que mécaniquement, les SCPI ne sont pas obligés de répliquer immédiatement les valeurs d'expertise. Et donc, on peut jouer sur cette airbag, si j'ose dire, au niveau des SCPI. Mais fondamentalement, nous, ce qu'on croit, c'est qu'on est quand même beaucoup plus proche de la fin que du début de la hausse, du cycle de hausse des taux. Et qu'après, tout dépend de la vitesse à laquelle les taux vont soit se stabiliser, soit décélérer. Il est clair que si on reste longtemps sur un plateau de taux élevé, il y aura un ajustement des valeurs, c'est inévitable. Mais il est clair aussi que dès qu'il y aura une baisse des taux, notamment pour lutter contre une récession qui arrive, et une fois que l'inflation sera jugulée, ben là, l'immobilier reprendra sa place parmi les classes d'actifs.
Donc tout dépend de Madame Lagarde. Exactement. Merci beaucoup, Daniel Wall.
Merci, Frédéric.
Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.